Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Leridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Valentin Bobinet. Deuxième temps de notre série consacrée au nouveau départ de l'Algérie un an après le début du Irak. Après nous être interrogés hier sur la réalité du changement de régime, avant de nous intéresser demain à la condition des femmes et puis jeudi à la place du pays dans la géopolitique régionale, place aujourd'hui à l'économie. Économie dépassée la malédiction des ressources, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Il y avait eu d'abord une bonne gestion de la rente pétrolière, réinvestie pour créer de l'emploi et de la richesse. On avait de quoi faire devenir l'Algérie pratiquement un pays autosuffisant à tous les niveaux. Aujourd'hui, on aurait un degré de développement extraordinaire.
La production industrielle algérienne qui s'est développée dans les années, fin des années 60-70, aujourd'hui, elle est complètement dépassée sur le plan technologique et n'est nullement adaptée à la demande, à l'exportation et principalement dans sa région, qui devrait être un espace de prédilection du marché algérien, mais il n'en est nullement le cas.
On peut arriver jusqu'à 40% des fonds qui sont dilapidés. S'il y a des passations de marché, il y a des pots de vin. S'il y a recrutement, il y a des pots de vin. Chaque acte, il est devenu une transaction qui est entachée d'actes de corruption.
On entendrait dans l'ordre Abdelmajid Attar, ancien PDG de la Sonatrach, la société d'État qui exploite le pétrole, à propos de la mauvaise gestion de cette rente pétrolière. Khalid Chegraoui, directeur du Centre Afrique Recherche et Moyen-Orient. Et puis Alim Fedal, secrétaire général de l'Association nationale de lutte contre la corruption. Si l'économie algérienne a tenu jusqu'ici grâce à sa manne pétrolière, les problèmes pourraient bientôt se faire jour. En effet, pour un État dont la majeure partie du budget repose sur la rente des hydrocarbures, le pire semble effectivement avoir été évité. Mais à y regarder de plus près, il est évident que l'équilibre actuel est fragile. Ce n'est que grâce à la planche à billets que le gouvernement a pu continuer de subventionner les produits de première nécessité, et ce, alors que le niveau des subventions avait été considérablement relevé en 2011 pour éviter la contagion des printemps arabes. Mais l'Algérie a-t-elle encore les moyens d'acheter la paix sociale? Quels seraient les principaux chantiers à mettre en œuvre pour assurer la santé économique de l'Algérie et quels obstacles s'y opposent? Comment diversifier cette économie algérienne? La récente campagne anticorruption menée en réponse au Irak ouvre-t-elle des perspectives positives sur ces dossiers ou met-elle au contraire en danger le tissu industriel du pays, de nombreux patrons s'étant retrouvés en prison? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités ce matin. D'abord, ici avec nous à Paris, Fatia Talaïd, bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci de l'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et chercheuse au CNRS. Avec nous en duplex d'Aix-en-Provence, bonjour Raouf Boussekine.
Bonjour.
Merci également infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur et directeur de l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille, l'IMERA. D'abord, une première question un peu générale sur la situation économique du pays. On fête aujourd'hui les 1 an du Irak, Fatia Talaïd. Jusqu'où ce grand mouvement populaire a eu un effet sur l'économie du pays? Est-ce qu'il a ralenti l'activité économique ou finalement tout cela a eu assez peu d'effet, compte tenu qu'en réalité l'essentiel, quand on parle d'économie en Algérie, se joue ailleurs, c'est-à-dire autour du pétrole?
Alors, je ne dirais pas qu'il a ralenti l'activité économique, et même je pourrais suggérer le contraire, c'est-à-dire qu'il a donné quand même beaucoup d'espoir, dans le sens où on a vu s'exprimer une population, une jeunesse et tout, très créative, très dynamique, et donc on peut, pour beaucoup de gens qui étaient très pessimistes hein, sur l'avenir économique de l'Algérie, il y a là un gisement. D'ailleurs, le gouvernement l'a bien récupéré puisqu'il a créé un ministère des start-up. Bon, c'est sa manière à lui d'exprimer ça. Par contre, là où ça s'est aggravé, au point où on a parlé de, où certains opérateurs économiques ont parlé d'années blanches pour certains secteurs de l'industrie notamment, c'est cette campagne anti-corruption et la manière dont elle a été menée, qui est une manière très populiste, qui était la manière qu'a eu le chef de l'armée de l'état-major Gaït Salah pour répondre à ce qu'il a interprété de la, des demandes du Hirak. Et cette campagne anticorruption a été menée de manière totalement arbitraire, avec une justice qui ne fonctionne pas. Et elle a créé un climat... bien sûr, on a mis en prison des gens qui étaient effectivement des corrompus, le problème n'est pas là, mais la manière dont ça a été fait a créé un climat de d'incertitude, de peur, et a eu un effet néfaste sur sur le climat des affaires, sur l'investissement.
Et sur les emplois, parce que moi j'ai lu un certain nombre de papiers hier, et il y a un certain nombre d'observateurs qui parlent de milliers d'entreprises qui ont été fermées depuis un an, de dizaines de milliers d'emplois qui auraient été tout simplement perdus, parce que effectivement, peut-être qu'il y a des raisons d'avoir mis en prison toutes les personnes qui le sont. Reste à effectivement être sûr de tout cela, et peut-être qu'on peut aussi se poser la question d'une possible instrumentalisation de tout cela, mais le fait est qu'il y a des grands patrons qui ont été mis en prison. Je pense par exemple au domaine des médias, où Anis Rahmani, qui est à la tête du premier groupe de médias privés du pays, s'est retrouvé en prison. Je pense aussi au BTP, où il y a des patrons qui se retrouvent en prison. Est-ce qu'on a une idée de l'effet sur l'économie? Et puis ensuite, je passerai la parole à Raouf Boussekine, mais l'effet concret, moi j'ai lu hier des milliers d'emplois perdus, c'est le cas?
Alors, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Le taux de chômage qui est avancé par le gouvernement dans son programme, il reste à 11%. À l'évidence, ils n'ont pas du tout intégré cette dimension-là, donc de ce qui s'est passé cette année 2019. Mais on parle de 60% des entreprises du BTP qui ont mis la clé, qui ont mis la clé sur la porte. On parle de secteurs, d'autres secteurs, hein, le secteur d'assemblage automobile qui est, ça c'est lié au fait qu'il n'y a plus d'importation de kits pour l'assemblage.
Mais ça c'était c'était un problème. Il y avait déjà un problème structurel avant le Hirak. On y reviendra.
Pour revenir à la question de la lutte anticorruption. C'est vrai que alors le gouvernement précédent avait mis en place une commission pour régler le problème justement de ces entreprises, avait mis des administrateurs, mais ce qui se passe, c'est que dans le programme du gouvernement, il y a rien, aucune mesure n'a été prise.
On va y revenir.
Pour déjà faire le bilan et régler cette question urgente de milliers d'emplois, effectivement. Qui sont pas forcément détruits, mais au moins de gens qui n'ont pas leur salaire et d'entreprises qui risquent de
péricliter. On va y revenir. Raouf Boussekine, je voudrais vous entendre sur les effets concrets de cette grande campagne anticorruption, ces arrestations de patrons sur l'économie. Et puis, il y a une chose qui était intéressante dans ce que disait Fatia Talaït, c'est elle considère qu'on a là peut-être aujourd'hui une opportunité formidable pour enfin lancer ce grand Big Bang dont l'économie algérienne a besoin. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a là une fenêtre d'opportunité, Raouf Boussekine?
Oui, mais entre la porte ouverte par les portes ouvertes par l'Irak et le processus qui pourrait amener à concrétiser les espoirs, etc., il y a quand même beaucoup d'interrogations. Peut-être que je reviendrai après là-dessus. J'ai une idée assez, assez partagée, assez mitigée là-dessus. Sur l'impact économique du Irak, évidemment qu'il y en a. Le problème, et j'abonde un peu dans le sens de ce qu'a dit Madame Talaït, il est trop tôt pour le quantifier. Alors je peux vous raconter des histoires, hein, mais ce n'est pas ma façon de faire. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un retard énorme, déjà que nous avions un retard conséquent depuis 2014 sur le plan des réformes qui devaient être faites, le Hirak a prolongé cette période-là. J'avais personnellement demandé qu'il y ait une espèce de comité de sauvegarde économique entièrement technocratique, déconnecté du gouvernement précédent qui était à l'évidence illégitime et qui était rejeté par tout le monde. Ça n'a pas été fait, et donc on est toujours dans ce processus d'autodestruction de l'économie algérienne qui dure depuis assez longtemps, je dois dire. Alors, sur l'opportunité que pourrait permettre l'Irak, il y a En Algérie, il y a un problème structurel qui tient au fait que, qui se traduit par le fait que le déficit budgétaire est depuis quelques années, en particulier depuis ce qui s'est passé en 2011, lorsque le gouvernement de l'époque a ouvert toutes les vannes pour apaiser les velléités révolutionnaires de l'époque. Ça, c'est le péché originel de l'économie, de la politique économique algérienne. Depuis cette époque-là, on a un déficit, d'ailleurs un twin déficit, qui est énorme. On a fait le calcul avec Nour Medaï de la Toulouse School of Economics à l'époque, même avec, on parle de 2014-2015, même avec un baril de pétrole à 100 $, donc le baril, le déficit du simple fait mécanique de l'augmentation stratosphérique des dépenses budgétaires en réponse au printemps arabe était de 8%. Alors imaginez ce qui s'est passé après. Et donc, il y a un problème énorme de dépenses...
Sachant que ce qui s'est passé après, M. Bousekine, c'est que le prix du pétrole a considérablement baissé à partir de 2014. Absolument, je referme la parenthèse pour les auditeurs, je vous en prie.
Exactement. Et donc, ça a été multiplié par deux, vous faites bien de le dire. Et alors, donc, il y a un vrai problème de dépenses et de transferts. Il ne s'agit pas naturellement de supprimer les transferts sociaux, ça assure la cohésion d'une société. Mais il y a ces fameuses subventions implicites qui, par exemple, on a fait le calcul pour les subventions énergétiques, tout ce qui est essence, électricité, gaz, etc. En 2012, on a fait le calcul, c'est 12 points de PIB. Et donc, il faut, à un moment donné, s'atteler à ça. Les gouvernements précédents n'avaient pas la légitimité pour le faire. Et ils ont la légitimité populaire. Donc, il y a un problème, naturellement, quand on s'attelle à ce genre de réforme, il faut quand même avoir un peu l'assentiment public, sinon ça marchera pas. Et c'est peut-être la chance une des chances ouvertes par le Irak, c'est que le président Tebboune, l'actuel, pourrait parfaitement s'appuyer sur ça pour de façon concertée, parvenir à une réduction graduelle de ce type de transfert, avec compensation, ciblage des populations les plus pauvres.
Sachant qu'il y a quand même certaines personnes quand même qui peuvent remettre en doute cette légitimité compte tenu du faible taux de participation à cette élection, taux bien qui sûr, par ailleurs, serait, selon certains observateurs, assez largement surestimé. Je reviens vers vous, mais je voudrais entendre Fatia Talaït sur cette question d'une fenêtre d'opportunité ou pas. Parce que c'est vrai que Raouf Bousekine nous dit, moi je suis un peu dubitatif, la situation d'abord économique n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. On a effectivement quand même une colère sociale qui est extrêmement forte, un capital patience des Algériens vis-à-vis de leurs dirigeants qui a été largement entamé. On a par ailleurs une transition politique qui n'est pas peut-être réel, on en a parlé assez largement hier, ça fait quand même beaucoup pour imaginer qu'effectivement on est arrivé au bon moment pour réformer l'économie algérienne, Fatia Talaït.
Oui, je voudrais nuancer cette idée que le Hirak a prolongé ce retard, parce qu'en fait ce retard, à la base, il était dû au fait à l'instabilité politique, au fait que le régime de Bouteflika était un régime agonisant, et donc toute cette période-là, les réformes ont pris du retard, on a même accru les déficits. Bon, à l'époque, il y avait encore des réserves accumulées qui ont permis de financer les déficits. Et avec le cinquième mandat, il voulait encore prolonger ça et peut-être à ce moment-là s'imaginer que entrant dans un cinquième mandat, à ce moment-là, on pourrait faire ces fameuses réformes structurelles ou plutôt les plus urgentes, c'était des réformes de stabilisation des équilibres. Mais moi, je pense que il y a aussi quelque chose d'important par rapport au Hirak, c'est que je voudrais faire un petit retour dans l'histoire, parce que cette situation, l'Algérie l'a vécue avec la chute du prix de pétrole en 85, le fait que les mesures n'ont pas été prises à temps et que l'Algérie s'est trouvée à initier des réformes entre 88 et 91, 92, et puis en fait, après, il y a eu un coup d'État militaire en 92, et finalement, l'Algérie s'est retrouvée à faire un ajustement structurel dans une période de guerre, hein, bon, certains l'appellent guerre civile ou guerre contre les civils, qui a fait que ce qui s'est passé, et les Algériens ont la mémoire de ça, ce qui s'est passé pour l'ajustement structurel, qui, il y en a eu deux, hein, entre 94 et 98, c'est que le régime, comme il était en situation de grande faiblesse du point de vue de sa légitimité, mais dans une situation de guerre et d'état d'exception, il a été au-delà de ce que lui demandait même le FMI. Il a fait vivre aux Algériens une période d'austérité incroyable. Il a été beaucoup plus que ce qu'on lui demandait. Et donc, je pense que le Hirak, il a un rôle important à jouer aujourd'hui. C'est cette vigilance, c'est de dire attention, vous n'allez pas nous refaire ce que vous nous avez fait après l'ajustement, pendant l'ajustement structurel. Et donc, moi, je pense que un des rôles importants du Hirak, c'est d'être vigilant et de rester mobilisé pendant toute cette période où il va y avoir forcément des mesures d'austérité.
Un rôle de vigie. Donc, Raouf Boussekine, sur ce point. Et puis, Fatia Talaït l'a rappelé, il y a déjà cette histoire économique avec cette sollicitation du FMI. Il se trouve que la loi de finances 2020 permet désormais le recours, je cite, en cas de besoin, au financement extérieur auprès d'institutions financières internationales. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de se préparer pour une nouvelle sollicitation auprès du FMI, Raouf Boussekine? Raouf
Boussekine, pardon. Oui, pas de problème. C'est l'Arlésienne, ça, le recours au... Non, avant de répondre précisément à votre question, non, ce que j'entendais par le retard accumulé après février 2019, c'est évidemment pas de la faute du Irak, il manquerait plus que ça. Non, je disais simplement qu'il y a un effet automatique du fait que on a encore retardé les choses, on n'a pas pris. Et sur le point du président Tebboune et son manque de légitimité, c'est le point sur lequel je voulais justement appuyer très fort. C'est qu'il a tout intérêt, le président Tebboune, s'il en a les moyens, j'entends bien, et vous me comprenez ce que je veux dire par là, s'il en a les moyens de s'appuyer sur le Irak, justement, pour avoir un vrai pacte. Ce que je regrette dans le Irak, mais qui visiblement, ça, c'est pas une idée qui passe très bien, c'est qu'il n'est pas suffisamment, il n'a pas suffisamment de, enfin, on va dire que c'est ça, c'est ce qui fait sa force, c'est qu'il n'a pas une représentation type shadow cabinet, etc., qui pourrait vraiment peser. Et c'est ça qui m'embête un petit peu dans le processus actuel. Sinon, je pense que, on peut évidemment remonter sur les différentes crises de légitimité qu'il y a eu depuis 1962. Je ne veux pas non plus vous embêter avec ça. Alors sur le...
Mais pardonnez-moi, Monsieur Boussekine, pardon, parce que vous dites qu'il y a peut-être là un moment, une opportunité pour le nouveau président. Mais quand on regarde justement ce qui est en préparation aujourd'hui, le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerad a présenté un plan d'action pour tenter de relancer justement cette économie algérienne. Oui. Quand on regarde ce qu'il y a derrière, on voit essentiellement des mesures destinées aux plus pauvres, ce qui était évidemment très bien. La revalorisation du salaire minimum, l'exemption d'impôts pour les revenus les plus faibles, tout ça est très bien. Mais est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de réformes structurelles, parce qu'on a l'impression qu'elles sont précisément absentes là aujourd'hui.
Absolument. Non. Vous avez tout à fait raison. Dire que ça rappelle un peu si vous avez un peu suivi le
ça rappelle 2011.
Et ça rappelle aussi l'Amérique latine.
Oui.
Allende, quand il est arrivé, ce qu'il a c'est justement je vais réduire les inégalités et donc l'inflation, l'hyperinflation, etc. Non, il y a un vrai problème de finances publiques en Algérie. Donc je reviens à votre question sur les déficits, etc., etc. Alors, je n'ai aucune honte à revendiquer que lorsque j'étais, je suis resté assez seul auprès du Premier ministre à la fin 2017, enfin à la fin début 2017. Il y avait déjà une crise énorme de liquidité. Il ne restait plus que à peu près 900 milliards de dinars de liquidité bancaire, c'est-à-dire moins de 6-7 milliards de dollars avec un dollar à 120 dinars. Le ratio de crédit sur dépôt était de 90%. Le taux de croissance hors hydrocarbures divisé par 3. Donc, il n'y avait plus d'argent, et donc s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça, c'est exactement, on est exactement au même point, monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dévalue le dinar? Sans doute qu'il faudra le dévaluer. Il est terriblement surévalué. Terriblement surévalué. Il faudra penser à je ne dis pas qu'il faut le dévaluer tout d'un coup. Il faut être raisonnable et dévaluer le dinar. Ça ramènera beaucoup de dinars, justement, avec la fiscalité pétrolière dans les arcanes, dans le trésor. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Il faudrait réduire les dépenses. Mais est-ce qu'il faut sabrer dans les équipements au risque de provoquer, alors là, le vrai chômage massif? Est-ce qu'il faut avoir recours à l'endettement extérieur? Naturellement qu'il faut avoir recours à l'endettement extérieur sous conditions. Il faut pas s'arc-bouter sur les 70 et quelques milliards de dollars qui restent dans les réserves. Les réserves de change, j'entends bien. Alors tout ça, ça pourrait faire une politique macroéconomique. Dans la mesure où on a quand même retenu de la période de la task force auprès de l'ancien Premier ministre qu'il faut faire de la programmation budgétaire triennale. Je suis désolé d'être un peu technique, mais avant la crise...
Il faut planifier les choses sur 3 ans, c'est ça.
Absolument. Ah, voilà, et là, évidemment, dans le budget 2020, ce qui a été fait, 2020-2022... Et ce qu'on a retenu comme hypothèse sur l'évolution des prix et des volumes d'exportation des hydrocarbures, on revient toujours à cette dépendance. Ces hypothèses-là sont totalement farfelues. Oui. On voit avec ce qui se passe, le coronavirus, etc. Donc on a un vrai problème de financement et je ne vois pas comment l'Algérie peut éviter encore la planche à billets pendant un certain temps.
Ouais. Fatia Talaïd, sur ce point, vous voulez réagir? La question de la révélation du dinar et peut-être aussi la question du pétrole, parce qu'il y a une question qui se pose aussi, c'est qu'effectivement, on ne le dit jamais assez, mais l'État algérien dépend assez largement de cette manne pétrolière. 95% des exportations, c'est quasiment 2/3 des rentrées fiscales qui sont appuyées sur le pétrole. Et la grande question qui se pose, c'est est-ce que le nouveau gouvernement, je n'ose pas dire le nouveau régime, on en a parlé assez largement hier, pour dire que peut-être qu'on n'avait pas effectivement en place un nouveau régime, mais est-ce que le président Tebboune a la main pour essayer de changer quoi que ce soit dans cette gestion de la manne pétrolière? Fatia Talaïd.
Oui, avant de passer à la manne pétrolière, bien que je ne sois pas spécialiste des questions du pétrole, mais je voulais quand même dire un dernier point.
Qui s'intéresse à l'économie algérienne s'intéresse forcément au pétrole algérien.
Oui, bien sûr. Fatia Talaïd. Mais je voulais dire un dernier, quand même quelque chose encore sur le Hirak. Je voulais dire que un gouvernement qui serait légitime, et vous comprenez que je ne parle pas du gouvernement de Tebboune aujourd'hui, enfin du gouvernement actuel, il pourrait aujourd'hui, pour mettre en place cette politique qui va être une politique d'austérité, mais qui devrait être adossée sur des réformes structurelles, il pourrait s'appuyer justement sur une caractéristique du Hirak, qui est que c'est un mouvement qui se présente, bon, dans sa diversité, qui se présente comme assez responsable et assez... qui n'est pas un mouvement comme on les a vus tout au long de la période de Bouteflika. Il y avait beaucoup d'émeutes, il y avait énormément d'émeutes, et ces émeutes tournaient autour du partage de la rente, en fait. C'était pour le logement, c'était pour les salaires, c'était pour l'emploi créé par l'État, et c'était des mouvements, et donc la réponse du gouvernement, c'est quand ces mouvements déstabilisaient trop, on l'a vu en 2011, c'est d'acheter la paix sociale en faisant des dépenses qui n'étaient pas rationnel. Et je pense que, et la réponse de Tebboune du gouvernement actuel, c'est aussi dans ce plan d'action du gouvernement de fonctionner encore une fois de manière populiste en proposant des mesures pour un petit peu calmer la, alors que le Hirak, il a mis en avant son souci de la souveraineté nationale, de ne pas brader ils se sont opposés au rachat d'une partie du secteur des hydrocarbures par Total, etc. Donc là, je pense que cette dimension nouvelle qui s'exprime à travers le Hirak de responsabilité et de... Bon, c'est pas peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, une partie du Hirak met en avant cette dimension, pourrait constituer quelque chose sur lequel un gouvernement légitime pourrait s'appuyer. Si vous voulez que je vous réponde sur les hydrocarbures, mais il y a c'est un gros problème. D'ailleurs, un des premiers mouvements qui n'était pas dans la revendication d'un autre partage de la rente, c'était le mouvement contre les gaz de schiste dans le sud. C'était pour moi le premier mouvement populaire qui s'exprimait sur autre chose que le partage de la rente, justement pour dire stop à l'exploitation inconsidérée des richesses minières et qui avait un souci de protéger l'environnement. Alors la question du pétrole aujourd'hui, justement, elle est beaucoup maintenant débattue dans ces termes-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le problème les problèmes de financement de l'économie algérienne et notamment des importations et aussi bon de dépenses publiques, mais il y a aussi la question de faire une transition énergétique, de passer à des énergies renouvelables et de protéger donc il y a un mouvement de résistance très fort, notamment par rapport au gaz de schiste. Alors là, il y a un débat parce qu'il y en a qui disent que c'est pas de toute façon pour aujourd'hui et que c'est pas forcément. On attend que les technologies soient plus avancées. Il y a aussi un autre problème.
Sauf qu'il y a urgence parce que les ressources pétrolières en Algérie, elles s'amenuisent, elles diminuent.
Elles s'amenuisent et en plus
il y a aussi si on veut développer le gaz de schiste en Algérie aujourd'hui, c'est ce qu'a proposé Tebboune. C'est parce que en fait on veut continuer à s'appuyer précisément sur cette manne pétrolière.
Sur l'extraction.
C'est la priorité par rapport à la diversification de
l'économie. Et puis, il y a une autre question, c'est l'augmentation de la consommation locale. Parce que si on continue... Parce que comme l'énergie est subventionnée, l'essence est subventionnée, l'énergie domestique, l'énergie pour aussi pour le secteur industriel, elle est subventionnée. Mmh. Donc, il y a une consommation qui se fait pas selon des règles, les lois du marché. Et donc, il y a une augmentation de la consommation qui fait que à ce rythme-là, on n'arrive même pas à répondre à la demande d'exportation dans le futur assez proche. Quoi.
Raouf Boussekine, sur cette question de la manne pétrolière et de la possibilité ou non de revoir la redistribution de cette manne, et puis ensuite on viendra à la question de la diversification de l'économie.
Oui. Alors sur le premier point, je suis tout à fait d'accord avec Madame Talaïk pour mettre en avant la question de la consommation intérieure. Vous savez que une grande partie de l'électricité en Algérie, peut-être même un énorme pourcentage, est produite à partir de gaz. Donc c'est des centrales à gaz en général. Et donc plus la consommation intérieure augmente, moins de gaz on exporte. Et donc c'est une thématique qui est, je veux dire, multiple. La première c'est celle-là, la deuxième c'est évidemment une problématique de santé publique, et la troisième c'est une problématique d'inégalité, parce qu'évidemment les subventions massives qui aident à la consommation de ce genre de produits profitent d'abord aux plus riches. On a fait les calculs il y a quelque temps, les 10% les plus riches consomment 29 fois plus que les 10% les plus pauvres. Donc il y a quand même, avec l'amorce de ce qui pourrait être un virage social, il faudrait peut-être penser à ce genre de choses. Sur la production sur la production des hydrocarbures en Algérie, il est assez évident qu'elle a été gérée de façon catastrophique, notamment le gaz. Alors je ne vais pas vous faire révéler le secret d'État, mais à un moment j'ai dû faire un rapport sur la régénération des puits de Hassermal, qui est l'un des puits, c'est des gisements qui ont été massacrés. Alors, je vous donne pas les détails, on parle de... Il vaut mieux que je vous les donne pas, d'ailleurs.
On parle... Tellement ils sont scandaleux, vous voulez dire?
Ah, c'est scandaleux, l'utilisation de... Bon, écoutez, pour moi, c'est des attentats économiques. Mais bon, je passe pas si je voulais simplement
dire... C'est fort, donnez-nous une idée de ce qu'il y a derrière.
L'idée qui est qu'il faut augmenter la rente pétrolière en faisant plus d'extraction et en exportant plus, ça fait des dégâts. Alors, ça me fait bien rire quand les gens parlent de gaz de schiste. Qu'est-ce que ça va faire de pire que ce qui a été déjà fait? Vous savez, ce qu'on appelle le fracking, c'est-à-dire la fracturation hydraulique, ça évidemment, il ne faut pas la faire n'importe où, comme le font les Américains, mais sous certaines conditions, avec le progrès technique et en choisissant bien ce qu'on fait, pourquoi pas? Le pire a été déjà fait en Algérie. C'est pas pour ça qu'il faut aller vers plus, comme dirait l'autre, plus pire. Hein.
On va se faire tomber sur Raouf Boussekine par les défenseurs de l'environnement, je vous cache pas.
Ah oui, je sais bien, mais je dis ce que je pense.
Absolument, vous avez le droit, c'est pour ça que vous êtes là.
Je dis ce que je pense, et je pense que l'Algérie ne pourra pas éviter d'essayer, en tout cas de voir, sous quelles conditions, disons les moins... coûteuse pour l'environnement et pour la santé humaine, l'exploration du gaz de schiste, je dis bien du gaz de schiste, peut être faite. C'est pas sûr. Ouais. Il y a plusieurs types de gaz de schiste, ça dépend des conditions géologiques. Les conditions géologiques ne sont pas les mêmes d'un endroit à un autre. En Pologne, on a essayé, on s'est arrêté tout de suite parce que les conditions géologiques ne s'y prêtent pas. Il faut évidemment pas faire ça à côté d'une ville, c'est une idiotie suprême.
Raouf Boussekine, Fatia Talaïd, je voudrais qu'on en vienne à la question de la diversification. Je vais pas vous demander pourquoi est-ce que l'Algérie n'a pas diversifié son économie jusqu'ici, parce qu'en réalité, elle a essayé. On va prendre un exemple et on va essayer de regarder pourquoi ça n'a pas marché. Le secteur de l'automobile, il y a quelques années, le gouvernement algérien se dit, tiens, on va développer l'industrie automobile dans le pays. Alors, on fait venir un certain nombre de constructeurs, on fait venir par exemple Hyundai, on fait venir par exemple Renault. Écoutez, extrait d'un clip institutionnel justement sur une usine en Algérie.
Abdelhalim Roubaïn, adjoint au chef département montage. J'ai intégré l'usine Renault Algérie Production en novembre 2013. L'usine était encore en projet. Ma motivation de travailler chez Renault Algérie Production, qui est une entreprise algérienne, via le groupe Renault, par sa dimension à l'international, permet donc de côtoyer plusieurs cultures, plusieurs nationalités. Donc ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit, faire progresser ses compétences managériales, développer sa carrière, pourquoi pas, à l'international.
Voilà, donc extrait de ce film institutionnel de Renault. Quand on regarde, c'est un film qui fait une dizaine de minutes, tout ça a l'air absolument merveilleux. On se dit que c'est extraordinaire que de voir cette belle initiative en matière de diversification économique. Sauf que quand on regarde les choses de près, Fatia Talaïd, on se rend compte qu'en réalité, ce que disent à peu près tous les observateurs, c'est que cette initiative, que ce soit pour Renault, pour Hyundai, etc., ça a été un fiasco total. On parle tout à l'heure, Raouf Boussekine parlait d'attentats économiques. Visiblement, ça a coûté des dizaines et des dizaines de milliards à l'État algérien. Aujourd'hui, on a des usines qui, en réalité, sont soit complètement à l'arrêt, soit en tout cas très très ralenties parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement, des kits de pièces qui n'arrivent pas, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient ce fiasco, Fatia Talaïd? On pensait diversifier l'économie et c'est un fiasco total.
Alors, c'est pas le seul d'ailleurs, mais la
question, c'est un exemple.
Oui, la question de la diversification, en fait, c'est un peu la tarte à la crème. Pour moi, c'est un peu comme l'histoire d'attirer les investissements directs étrangers. Je veux dire, diversifier les exportations, il faut déjà diversifier la production, il faut déjà produire avant de se préoccuper de diversifier les exportations. Et quand on est dans la production industrielle, c'est quelque chose qui n'est pas, diversifier les exportations industrielles, ça veut dire s'inscrire dans des chaînes de valeur à l'échelle internationale, ça veut dire se positionner sur des niches, sur des marchés. Or, tout ça n'a pas du tout été fait de cette manière. Donc on a sur la diversification, il y a eu une étude déjà qui a été faite par la Banque mondiale il y a déjà quelques années pour dire qu'en fait l'Algérie, si elle voulait diversifier ses exportations, il fallait pas qu'elle mette l'accent sur le secteur manufacturier parce que ça augmenterait automatiquement les importations d'input et donc il fallait en fait qu'elle développe d'autres extractions minières, donc qu'elle aille du côté d'autres dans le secteur primaire, qu'elle exporte du phosphate, qu'elle exporte d'autres ressources naturelles. D'ailleurs, ça transparaît dans le programme du gouvernement aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de richesses qui sont sous-exploitées, sauf que le gouvernement a une vision très limitée. En fait, le gouvernement, ce qu'ils veulent, eux, c'est diversifier les exportations. C'est pas pour diversifier la production et développer l'économie algérienne, c'est pour continuer à pouvoir exporter et à pouvoir avoir des devises pour en contrepartie.
Donc, voilà. On reste dans cette logique extractiviste. Raouf Boussekine, sur cette incapacité, en tout cas cet échec dans la diversification de l'économie, parce que effectivement il y a cette initiative, mais il y en a plein d'autres. Il y a eu un certain nombre de plans qui ont été mis en place pour essayer de diversifier cette économie, et aujourd'hui on peut dire que c'est un échec. Raouf Boussekine, pourquoi?
Absolument, c'est un échec retentissant, mais vous avez bien fait de rappeler que un peu ce que disait Madame Talaïd, la tarte à la crème. C'est qu'il y a eu énormément de plans de diversification. Le dernier, c'est celui que nous avons pondu à la task force de l'ancien Premier ministre, où il y a un plan de diversification complet, avec notamment une méthodologie, comment gouverner le processus de diversification. Ça fait partie un peu des choses que j'ai apprises en Algérie, c'est que l'économie politique est souvent prédominante sur la politique économique, j'entends. Et donc,
attendez, qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous sous-entendez que les propositions que vous aviez mises sur la table n'ont pas été suivies?
Disons que ça a été largement amputé. Donc le plan lui-même, il y a eu une partie qui a été adoptée, c'était sur l'aspect, comme je disais, programmation triennale, etc., etc. tout leur... D'ailleurs, ça a été adopté en Conseil des ministres le 26 juillet 2016, signé par Bouteflika. Mais la grande partie, diversification, etc., avec les détails sur le type de gouvernance qu'il faut appliquer pour être sûr, on s'est inspiré naturellement des success stories qu'il y a eu ailleurs, en faisant l'adaptation qu'il faut. Il y a un grand spécialiste dans ce domaine, c'est le professeur Bouclia, que connaît bien Madame Talaï, je pense qu'elle a travaillé avec lui. Et lui-même était dans les différents ministères de l'industrie pendant successifs. On a tout fait. Et finalement, ça s'est encore réduit à une histoire de partage de gâteaux. Mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire avec un pays où le taux de... Où l'investissement privé ne compte que pour 10% de l'investissement total. Donc on ne peut pas diversifier par et pour l'État. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est une histoire qui était. Enfin, j'ai eu la naïveté d'y croire, hein, puisque je me suis engagé dans cette histoire. Mais en vérité, on peut rien faire avec 10% d'investissement privé, avec un système bancaire et financier totalement à la rue. Et un pays qui en est réduit à jouer sur la planche à billets encore pour longtemps. Bon, je suis désolé d'être aussi sec, hein, mais bon.
Non, mais vous avez raison. Raoul Sekin, on vous invite pour ça. On veut effectivement avoir votre opinion sur les perspectives possibles en termes de réforme économique. Pour vous, elles sont nulles aujourd'hui. Point.
Elles sont nulles. Malheureusement, le gouvernement actuel, je ne peux pas le juger parce que je ne suis personne pour. Je veux dire, je connais pas ces gens-là, mais je pense qu'ils sont coincés comme moi, comme Madame Talaït dans votre studio.
Oui, sauf que Madame Talaït, elle pense quand même que là, on a une fenêtre d'opportunité. Ça fait quand même un point de divergence.
Je cherche pas la divergence.
Vous êtes tous les deux des analystes et des très bons connaisseurs de l'économie algérienne et de l'Algérie en général.
Je voulais simplement dire que le chemin est absolument, pour le moment, il n'est pas du tout clair. Et je pense que ce qui est encore de moins clair, c'est ce qu'il y a derrière les coulisses. Donc c'est pas la peine de tirer des plans sur la comète.
Fatia Talaït, c'est vrai que on a envie de croire que l'Algérie peut y arriver, mais il y a un certain nombre de signes qui nous laissent penser qu'on n'est pas sur le bon chemin. Je disais tout à l'heure les réformes économiques proposées par le nouveau Premier ministre. On voit bien qu'il manque ces réformes structurelles qu'on attend depuis des années. Quand on regarde aussi, par exemple, la fameuse règle des 49-51, c'est-à-dire qu'il y a depuis des années en Algérie cette impossibilité pour un investisseur étranger d'investir dans une entreprise algérienne à plus de 49%, de sorte qu'on prend jamais finalement complètement le contrôle d'une société. Visiblement, on est prêt à revenir sur cette règle-là, mais seulement sur les secteurs qu'on dit non stratégiques. C'est-à-dire, autant dire des secteurs qui, en réalité, ne pèsent pas très lourd économiquement. Donc, on voit bien que les blocages sont encore très forts, Fatia Talaït.
Alors, sur la règle des 49-51, elle a été abandonnée récemment. Et on a
pas
dit
sur tous les secteurs.
Voilà, on a dit qu'il y aurait une loi organique qui définirait les secteurs stratégiques, sauf que le programme du gouvernement ne dit pas un mot là-dessus. Mais il y a déjà des effets de... il y a déjà deux cas d'entreprises qui avaient été privatisées. Donc, la entreprise de Ruiba qui fabrique des jus de fruits, qui était une entreprise publique florissante dans les années 70, qui est en difficulté aujourd'hui, en difficulté financière. Et comme elle avait une participation minoritaire de Castel, le groupe français, ben maintenant il est question qu'ils deviennent majoritaires, vu que sinon elle risque de faire faillite. Et c'est aussi le cas d'une autre entreprise de fertilisants qui avait emprunté à BNP Paribas et qui aussi est en grande difficulté et qui va probablement être rachetée, c'est-à-dire que cette dette va être transformée en participation. Mais je voudrais revenir à la question des réformes, c'est-à-dire que l'Algérie dans une situation tout le temps paradoxale, c'est que quand il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, on peut pas faire de réformes. C'est justement l'histoire de l'industrie automobile, c'est ça. C'est que à ce moment-là, c'était plus facile d'aller importer déjà des véhicules. Au début, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, comme ils avaient la pression quand même pour diversifier, parce que ça commençait à devenir, on commençait à se rendre compte que ça allait pas durer tout le temps. Bah, ils ont inventé cette histoire d'assemblage, mais en fait, c'était pas de l'assemblage, c'était des voitures. Il restait plus qu'à y ajouter les pneus ou voilà. Mais c'était une époque où la manne pétrolière est élevée. Et donc, on a une sorte de règle qui fait que quand la manne pétrolière est élevée, on peut pas faire les réformes. Mais le problème, c'est que quand il y a un choc...
C'est complètement contre-intuitif, parce que justement, voilà, on se dit qu'à priori, quand il y a plein d'argent, c'est exactement le bon moment pour faire les réformes.
On devrait pouvoir, oui. Mais c'est ce qui se passe, en tout cas, ce qu'on observe en Algérie. Et quand il y a un choc de ressources, et donc que le régime est au pied du mur, il se met à lancer des réformes, sauf que il va les stopper lorsque ça remet en cause les équilibres politiques. C'est ce qui s'est passé en 92. Et si vous le permettez, je voudrais quand même dire quelques mots sur le fonds de régulation des recettes. Peut-être qu'on pourra en parler.
Je vous en prie,
après,
alors tout de suite.
Parce que c'est quelque chose qui a aussi accéléré la crise. Donc ce fonds, c'était un fonds dans lequel qui était une très bonne idée au départ. On mettait les excédents de recettes pétrolières pour un peu amortir les chocs, en supposant que les chocs étaient des chocs de fluctuation. Après, le problème, c'est qu'on s'est trouvé dans une période où ça a augmenté sur une longue période, donc c'était plus adapté. Ce qui fait que l'Algérie a eu une politique un peu mercantiliste. Elle a accumulé énormément de sous forme de devises, de réserves de change, mais surtout dans un compte du Trésor, elle a accumulé un magot. Et ça a créé des convoitises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont commencé à changer les règles, parce qu'il n'était pas prévu qu'on finance les déficits budgétaires sur ce fonds, mais juste les effets des fluctuations du prix du pétrole, quand on a commencé à y toucher pour financer les dépenses publiques, ça a créé des convoitises. Et alors, je pense que l'accélération, c'est vers la fin du de l'époque Bouteflika, quand on s'est rendu compte que c'était fini, qu'il était en train de fondre. C'est là que la corruption s'est beaucoup accélérée, parce que tout le monde a voulu prendre sa part. Et ça a été une dérive tragique.
Voilà. On est avec vous, Fatih Atalaït et Raouf Boussekine, en duplex depuis Aix-en-Provence. On va s'intéresser à la question du tourisme.
La grande leçon du désert, c'est encore la patience, l'humilité, la soumission au réel. Bénéfique exercice pour un orgueilleux primate, trop tenté de se prendre pour le centre du monde et le roi de la création. La direction Irigui.
Direction Machine Machirigui.
Comme ça?
Hoc.
Hoc.
Comme ça.
Qui va?
Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Théodore Monod, un amoureux évidemment du Sahara, amoureux de l'Algérie, extrait du Vieil Homme et le désert d'un documentaire de Carole Procop, parce qu'évidemment ce désert, ça fait partie des trésors qui pourraient nous laisser penser que, eh bien, il y a une perspective assez extraordinaire pour développer le tourisme en Algérie. On va en parler tout de suite avec Nassima Zegaï. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur et maître de conférences en géographie. Vous avez fait une thèse sur le tourisme en Algérie. Quand on regarde un peu les chiffres du tourisme en Algérie, c'est un peu plus de 2 millions de touristes chaque année. C'était les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme pour 2013. Et c'est donc le quatrième pays du continent en termes de tourisme, alors que c'est le plus grand en superficie, qu'il a des atouts absolument colossaux. Comment comprendre qu'on ait un niveau aussi faible finalement en termes de fréquence, et est-ce que finalement le souvenir terrible de la décennie noire continue de marquer les esprits et agit comme une forme de repoussoir pour beaucoup de touristes, ou il y a d'autres raisons, Nassima Zegaï?
Alors, sur les 2 millions de touristes, c'est un chiffre valable jusqu'à aujourd'hui, 2 millions 300 de touristes sur ces 2 millions, plus de la moitié, ce sont des résidents, des Algériens résidant à l'étranger. Mmh. Donc, ce sont des personnes comme moi qui rendent visite à leur famille, leurs proches. Dans ces 2 millions, vous allez avoir beaucoup de tourisme d'affaires. Situé surtout sur le littoral, notamment à Oran ou un peu dans le sud, et une très faible part pour le tourisme proprement dit.
Alors, et pourquoi il est aussi peu développé, Nassima Zegaï? Pourquoi est-il aussi peu développé?
Alors l'Algérie est un pays en marge des destinations touristiques potentielles. C'est un pays à fort potentiel touristique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Ça a toujours attiré un peu la curiosité depuis la période coloniale, hein, avec les orientalistes. Il y avait il y avait beaucoup de touristes qui venaient. Pas, on les comptera pas en millions, mais ça a attiré toujours une curiosité, ça a attiré aussi, ça a permis à des romanciers d'écrire des choses, des romans sur l'Algérie.
Mais est-ce qu'on a essayé de favoriser justement cette activité touristique?
Non, dans les textes, ça y était, mais dans la réalité, non. Alors dans les textes, depuis 62, ça a été inscrit dans les textes, dans les chartes. C'était très, tout était maintenu par, tout était dirigé par l'État en fait. Hein. Donc quand on voit la part budgétaire dans les différents plans, que ce soit dans le triennal, le premier des 67. Ou le premier plan quadriennal ou le deuxième plan quadriennal, le premier plan quinquennal, le deuxième plan quinquennal, la part budgétaire passait de 2,79% à 0,63% pour le dernier plan. Donc la part budgétaire était très faible, elle marginalisait le secteur, même si dans les textes, on disait que il fallait hisser le secteur au rang d'industrie nationale, mais dans les faits, quand on voit la part budgétaire, elle était très minime.
Et vous pensez que ça peut changer, Nassima Azegaï, aujourd'hui?
Oui. Ça pourrait changer. En fait, le spectre de l'après-pétrole peut se manifester au moment où on s'attend le moins, sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour faire face à cette crise. Madame Talaït et Monsieur Bousset ont parlé d'autres secteurs qu'il fallait développer. Effectivement, on pourrait aussi penser aux énergies renouvelables. Hein. C'est un pays très riche en énergie solaire et très grand aussi. Donc on pourrait mettre des champs photovoltaïques à perte de vue. Mais il y a le tourisme qui pourrait être développé, qui pourrait être vraiment une opportunité.
Mais vous avez le sentiment que c'est le cas? Vous avez le sentiment que...
Non, pas encore.
Pas encore, parce que en regardant la documentation pour préparer notre entretien, j'ai vu que l'actuel gouvernement, par exemple, envisage de mettre en place des visas électroniques pour les visiteurs. Or, c'est un point important parce que c'est l'une des raisons peut-être qui explique le peu de tourisme du côté de l'Algérie. C'est une option par ailleurs qui a été utilisée par un certain nombre de pays avec un certain succès ces dernières années. Je pense au Laos, au Cambodge, à la Birmanie. Ça a permis justement d'attirer des touristes. Est-ce qu'il faut le voir comme le signe précisément que ce nouveau gouvernement a l'ambition de développer ce secteur?
Si vous mettez des visas électroniques, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il faut recevoir ces touristes ou les accueillir. C'est ça le problème.
C'est pas faux.
Sur plus de 300 hôtels, la moitié est non classée. Les hôtels ne sont pas mis aux normes. Il n'y a pas assez d'infrastructures. Quand on parle de tourisme balnéaire, on ne peut pas concurrencer les autres pays, ne serait-ce que du bassin méditerranéen, parce que plus de 30% du tourisme au niveau du bassin méditerranéen, c'est la France, la Grèce, la Tunisie, le Maroc qui le capte. L'Algérie ne capte rien, en fait. Donc, faudrait créer déjà les infrastructures d'accueil. On a une faiblesse des prestations de services, une absence de professionnalisme. Les écoles sont là, il y a des écoles, il y a l'école l'ENSC de l'ORAFI et d'autres instituts plus techniques un peu dans le pays. Mais il manque un professionnalisme parce qu'il faut mettre aussi à jour et à niveau les formations. Il y a une capacité d'accueil qui est très insuffisante.
Tout est à faire d'une certaine manière. Tout est à faire dans ce secteur.
C'est un chantier. En fait, l'Algérie est un chantier. On ne peut pas concurrencer les autres pays du bassin méditerranéen, ne serait-ce que nos voisins tunisiens et marocains sur le plan balnéaire, parce que c'est un pays fortement littoralisé qui subit beaucoup de pression sur le plan environnemental. Donc le risque, c'est de réparer déjà toutes ces dégradations et ça prend beaucoup de temps. L'idéal, c'est de développer un produit touristique, un ou des produits touristiques.
Il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Je voudrais peut-être entendre Raouf Boussekine et Fatia Talaït sur ce point-là, parce que justement, tout est à faire, Raouf Boussekine. Est-ce que c'est pas là précisément une grande opportunité? Parce qu'on disait tout à l'heure que quand il y a une manne extraordinaire, le pétrole par exemple, évidemment tout le monde joue de son influence pour essayer d'avoir une part du gâteau. Là, il n'y a pas de gâteau, tout est à faire. Voilà une belle opportunité, Raouf Boussekine.
Ben, c'est bien ce que je disais au départ. Donc, je disais le Hirak ouvre cette opportunité-là. Je vais encore plus loin, moi. Est-ce que vous comprenez bien que le problème de l'Algérie, c'est pas l'abondance de ressources, que ce serait plutôt une bénédiction, on est bien d'accord. Donc, ce qu'on appelle le resource curse, c'est-à-dire la malédiction des ressources, est totalement conditionnel au type de gouvernance, etc. Ça n'existe pas, le resource curse. Il y a plein de gens très très riches qui se sentirent très très bien. Donc, c'est juste une question de gouvernance et de... Moi, j'avais, dans un écrit qui a fait un certain bruit en Algérie, j'avais appuyé l'idée que non seulement il y ait cette idée de faire table rase sur toute l'histoire économique du pays, mais aussi sur l'histoire politique du pays en mettant en place une constituante, qui est très important, parce que les règles...
Ce que demandent les manifestants.
Absolument. Mais moi, je pense que c'est... Vous savez que sur les 200 et quelques constitutions qui ont été promulguées depuis le 1800 jusqu'à maintenant, seulement 34%, donc après changement de régime, seulement 34% en sentent vraiment démocratiques et ne sont pas téléguidés par les élites sortantes. Et j'ai bien peur que la révision à minima qu'on est en train de proposer ne tombe dans cette catégorie-là. Donc je suis non seulement partisan d'un changement sur le plan économique, mais étant donné le diagnostic que nous sommes en train de faire, qui est que le problème de l'Algérie, ce n'est pas un problème de fric, mais c'est un problème institutionnel. Il faudrait commencer par la réforme de la première institution, qui est la Constitution.
Et ben voilà, tout est à faire, hein, Boussekine. Merci beaucoup en tout cas à Nassim Azéga qui était à l'instant avec nous par téléphone.
Simple et standard, mouatan qui malgache. N'khdem choumer f'dor, ou bien un petit salarié. Ani plho mando, on sait jamais que j'mai ben f'dor.
Et un grand merci donc à nos invités, Raouf Boussekine qui est avec nous en duplex d'Aix-en-Provence. Un grand merci à vous, Fatia Talaït. Vous me disiez juste
avant. Oui, je voulais dire, parce que je suis impressionnée par toutes les études dont a parlé M. Boussekine, et je voulais dire, mais de manière plus générale, que ce que pourrait faire de bien l'opposition pour rendre service au Hirak, c'est de publier. Je sais que la Task Force, ils n'ont pas été payés, donc je pense qu'ils n'ont pas d'obligation à ne pas publier. Que les gens qui ont fait des études, qui les publient, qui les mettent en ligne.
Voilà, le message est envoyé. Raouf Boussekine, il faut écrire, il faut publier. Merci en tout cas infiniment à vous et au technicien qui a permis de faire justement la liaison jusqu'à Paris. 11h, presque 53 minutes l'heure pour nous de retrouver. Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous allez nous parler de la Chine. Est-ce qu'elle est encore communiste, cette Chine, ou ses dirigeants font-ils semblant, Brice?
Aux dernières nouvelles, il y aurait en Chine 62 milliardaires en dollars. Un État qui permet à des entrepreneurs privés de constituer de pareilles fortunes peut-il encore se déclarer communiste? À quoi riment ces symboles, la faucille et le marteau qui sont imprimés en rouge sur les cartes de visite des responsables du parti et du gouvernement chinois, et puis cette étoile rouge qui décore le drapeau de la République populaire de Chine? Eh bien, la réponse apportée par Alice Ekman dans un livre qui paraît cette semaine, Rouge vif, l'idéal communiste chinois, est ambiguë. Le système chinois, écrit cet auteur qui est bien connu des auditeurs de Culture Monde, est hybride. Il mélange toutes sortes d'héritages, confucéen, soviétique, maoïste. Il est à la fois pragmatique et idéologique. Il tolère en effet un secteur privé important, mais à condition que celui-ci demeure sous le contrôle vigilant de l'État planificateur. Et comme il est de règle dans tout système communiste, eh bien, les organes de l'État sont doublés à tous les niveaux par des cadres du parti. Et ce sont eux qui détiennent la réalité du pouvoir en Chine, car le régime demeure indéniablement communiste. Le parti unique, 90 millions de membres militants dans 4,5 millions de cellules de base, est présent à tous les niveaux de la société et il exerce sur celle-ci un contrôle minutieux et permanent. Quant à l'idéologie qu'il professe, c'est bien le marxisme-léninisme, mais dans une version repensée par le nouveau grand timonier au profit de sa propre autorité, cela s'appelle le socialisme aux caractéristiques chinoises.
Le parti qui domine la Chine a fait de sa version du communisme l'élément fondamental de l'identité du pays. Est-ce un moyen, Brice, de renforcer sa légitimité à diriger le pays précisément ?
Eh oui, parce que l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping à la tête du parti en 2012, puis à la présidence de la République l'année suivante, s'est traduite par un net retour aux sources intellectuelles du régime. Le recadrage idéologique emprunte ses méthodes et ses slogans, à l'époque maoïste. La campagne lancée en mai 2019 par la direction du Parti communiste s'intitule d'ailleurs « Restez fidèles à notre engagement initial, gardez constamment à l'esprit notre mission ». Comme autrefois les textes et discours de Mao, les écrits de Xi Jinping font l'objet de séances d'études obligatoires à tous les échelons du parti. Grâce à la méthode de propagande intitulée « 3 séances, 1 cours », eh bien tous les cadres du parti ont l'obligation d'assister à des séminaires de propagande et d'en rendre compte dans des réunions à l'échelon inférieur de sa très stricte hiérarchie intérieure. Des séances de critique et d'autocritique, dans la pure tradition maoïste là encore, ont été réintroduites dans les cellules du Parti communiste et celles-ci sont obligatoirement présentes dans toutes les entreprises d'État où elles servent de relais aux décisions du centre, mais les entreprises privées d'une certaine importance ont également été invitées à ne pas oublier de créer les leurs. Et on y supervise la direction.
Une chose est sûre, Brice, ceux qui avaient misé sur une libéralisation progressive du régime en sont pour leurs frais.
Eh oui, au point qu'on peut se demander, avec l'auteur de ce livre, si l'ère de la relative libéralisation qu'avait impulsée Deng Xiaoping n'aurait pas été tout simplement l'équivalent chinois de la NEP, décidée par Lénine en 1921, la fameuse nouvelle politique économique. Une simple pause destinée à rendre un peu de dynamisme à l'économie avant de remettre le pays sur les rails du socialisme. L'ère Xi Jinping s'est traduite par un resserrement, je le disais, du contrôle social. Imaginez qu'un plan national de recrutement de 10,5 millions de volontaires destinés à faire la police du parti sur Internet a été imposé aux universités chinoises. Chacune s'est vue imposer un quota de volontaires chargés de faire la chasse aux contenus critiques envers le régime ou bien simplement véhiculant des idées occidentales, c'est-à-dire libérales et favorables à la démocratie et aux droits de l'homme. En réalité, explique Alice Ekman dans son livre, le parti communiste qui dirige la Chine présente les aspects d'une secte religieuse. Ses membres sont sans cesse sollicités à proclamer leur foi, à faire en sorte que celle-ci soit plus pure. Des expressions telles que « racler l'os pour en éliminer le poison » ou « retourner la lame du couteau contre soi-même », d'usage courant dans la doxa du parti actuellement, ont clairement des accents de révolution culturelle. Mais les choses pourraient bien changer, selon un autre auteur, Yuan Yuan Hang, qui est professeur à Ann Arbor dans le Michigan. L'épidémie de coronavirus risque fort, écrit-elle sur Project Syndicate, de déstabiliser le pouvoir. En le centralisant et en le personnalisant à outrance, Xi Jinping s'est dangereusement exposé, ses défaillances ont été dévoilées. Il est donc probable que sa position au sein de l'équipe dirigeante en sorte déstabilisée et que dans un futur assez proche, il soit démis d'une partie de ses fonctions tout en conservant provisoirement ses titres. C'est ce qui est arrivé à Mao Zedong lui-même après la catastrophe du grand bond en avant de 1958 à 62 qui s'était traduite, souvenons-nous, par une famine épouvantable.
Merci beaucoup Brice Couturier. Donc Rouge vif, l'idéal communiste chinois d'Alice Ekman qu'on reçoit effectivement, il faudra la recevoir pour ce livre d'ailleurs, aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Brice pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.